bienveillance.
La voix des pâturages.
Un podcast présenté par le parc naturel régional de Mille Vaches en Limousin et Radio Vassivia.
Quel lien entre les bergères du Limousin et les Samis de Laponie ?
Le pastoralisme est une pratique millénaire. Il rythme la vie des hommes et des femmes au gré des saisons et du mouvement de leurs troupeaux.
Aujourd'hui, à quoi peuvent bien ressembler ces pratiques sur les montagnes limousines ?
Alors, donnons la parole aux pastoralistes.
Bonjour à toutes et à tous, auditeurs, auditrices des radios Vassivières. Je vous souhaite la bienvenue à la voix des pâturages des milieux vivants, une série spéciale pastoralisme et gestion des sites. Une rencontre avec Antoine Beignon, chargé des missions, gestion des sites, des milieux fragiles au sein du Conservatoire d'espaces naturels Seine. Coucou Antoine.
Bonjour Émilie.
Ce qui nous anime aujourd'hui, c'est le fait de continuer ce qu'on s'est dit lors de notre podcast précédent, la gestion constructive collectivement et comment cette protection des milieux naturels repose souvent sur une collaboration étroite entre plusieurs acteurs du territoire. On s'est dit, vous n'êtes pas tout seul là, il faut échanger. Donc Antoine, comment s'organise concrètement le travail entre les conservatoires et les éleveurs?
Alors, on passe, je disais, des contrats avec eux hein, pour cadrer un petit peu le pâturage. Alors concrètement, comment ça se passe? En gros, quand on devient propriétaire ou gestionnaire de parcelles qui ont vocation à être pâturées pour être entretenues, on fait un petit peu une recherche des éleveurs locaux qui pourraient être intéressés, avec qui on pourrait mettre en place un partenariat. En fonction de la conduite du pâturage, on va installer ou pas des clôtures. Si c'est des brebis, bah, ça va être de l'Ursus. Si c'est des vaches, ça peut être du barbelé ou des clôtures électriques. Et une fois que ces travaux sont réalisés, on va, dans un premier temps, pendant un an, deux ans, voir si le partenariat peut se mettre en place, si on est sur la même longueur d'onde, autant pour les éleveurs que pour nous. Et puis, si tout se passe bien, on contractualise. Donc, sur nos parcelles en propriété, on passe des baux ruraux à clauses environnementales. Donc, c'est les particularités d'avoir des clauses environnementales. Et puis, sur les parcelles où on est simplement locataire, on ne peut pas faire de sous-location. Donc on signe des commodas ou des contrats de pâturage qui ont les mêmes clauses, mais qui n'ont pas la même portée juridique, on va dire.
Je me demande, Antoine, comment ça se fait le repérage de ces sites que vous souhaitez protéger, que vous souhaitez préserver pour l'acquérir, l'acheter ça, est-ce qu'il y a des cartographies adaptées pour voir c'est quoi du privé, du public?
Oui. Alors, tu as raison, parce qu'en fait, des milieux d'intérêt, il y en a partout, hein, et pas que sur le plateau de Mille Vaches. Et grosso modo, comment ça se passe? Donc, on a ces cartographies-là. Donc, on va dire que sur le plateau de Mille Vaches, le conservatoire, on intervient depuis 1992. Donc, au départ, il y a eu des effets d'opportunité qui nous ont permis d'acheter des milieux. Aujourd'hui, la stratégie, c'est plutôt d'agrandir les sites sur lesquels on est déjà, même si on ne s'interdit pas d'en développer de nouveaux. Mais l'idée, c'est d'avoir une gestion la plus cohérente possible. Et pour ça, c'est d'avoir des surfaces et des milieux contigus pour pouvoir faire aussi des corridors écologiques. Donc c'est un peu comme ça qu'on réfléchit aujourd'hui notre intervention pour la maîtrise foncière ou la maîtrise d'usage.
Comment est-ce que vous définissez cette adaptation, son jeu écologique spécifique à chaque milieu?
Alors quand on devient propriétaire ou gestionnaire de parcelles, on va rédiger un plan de gestion. C'est-à-dire qu'on va définir un périmètre un peu plus large que ces parcelles-là, sur lequel on va faire un diagnostic des milieux, des espèces en présence, définir des enjeux et des objectifs, et puis planifier des actions qu'on va mettre en œuvre sur 5 ans ou sur 10 ans, et qui va être validée ensuite par notre conseil scientifique et par nos financeurs. Et après, l'idée, c'est de mettre en place ces actions. Donc, il va y avoir des actions d'entretien ou de restauration des milieux dont on est gestionnaire. Et puis, parmi les actions, eh ben, il va pouvoir y avoir d'organiser des sorties grand public, mais aussi de faire de l'animation foncière. Donc, en fonction des parcelles qu'on a repérées et qui pourraient être intéressantes pour nous, on va démarcher les propriétaires pour leur expliquer ce qu'on fait, comment on le fait, et puis leur dire que potentiellement, on peut être acheteur de ces parcelles. Et lorsque les propriétaires sont susceptibles d'être vendeurs, on travaille avec la SAFER, qui est un organisme qui connaît les prix des terrains, hein, ce n'est pas notre métier à nous. Donc on les contacte, on leur demande de faire une estimation de ces terrains-là, ils le font, ils prennent contact avec les propriétaires, ils définissent un prix qu'on nous soumet ensuite. Et puis, si cela nous convient, on passe en comité SAFER. Donc, c'est des instances de décision où il y a des votes et les terrains qui sont en vente sont attribués à un tel ou un tel. Donc, nous, on explique notre projet. Il peut y avoir de la concurrence, hein, bien sûr. Et puis voilà comment ça se passe. Du coup, quand on est attributaire des terrains, on les achète et on en devient propriétaire.
Et du coup, cette commission des scientifiques, elle est composée par qui ? C'est des naturalistes, c'est des chercheurs. Comment on peut définir un peu les profils de ces personnes qui vont venir étudier les terrains et puis voir les méthodes les plus adaptées à tel et tel milieu ?
Alors ça, c'est nous qui le faisons en tant que chargé de mission. Après, on est suivi pendant la rédaction de ces plans de gestion, donc par des membres du conseil scientifique qui, comme tu l'as dit, peuvent être d'un peu tout profil. Hein. Ça peut être des chercheurs, ça peut être des naturalistes, mais on a aussi des vétérinaires, par exemple, parce que du coup, le bien-être animal, c'est important. Et puis, il y a des fois des questions de parasitisme qui peuvent être intéressantes de prendre en compte dans la gestion ensuite des milieux et du pâturage.
Pour toi, Antoine, qu'est-ce qui est essentiel pour trouver un équilibre entre besoins agricoles et enjeux de conservation des espaces fragiles ?
Je pense que c'est la concertation. En gros, c'est les milieux, l'idée, c'est pas de les mettre sous cloche, parce que, comme on l'a expliqué tout au long des capsules, comme tu dis, les milieux, ils doivent être gérés si on veut conserver des milieux ouverts, en tout cas. Et donc, le pâturage, c'est la meilleure des solutions, et le pastoralisme, c'est la meilleure des solutions qu'on peut mettre en œuvre pour ça. Voilà.
Ces collaborations reposent aussi sur des choix techniques très précis qu'on va continuer à explorer quand on va parler d'adapter les pratiques au milieu. Je te remercie, Antoine, de nous conférer ces temps précieux pour parler de la gestion des sites. Et vous avez écouté La Voix des Pâturages, un podcast spécial sur le pastoralisme dans la montagne limousine. On parle des milieux vivants avec Antoine Beignon, chargé des gestions des sites au sein du Conservatoire d'espaces naturels Seine. Je te remercie, Antoine, et on se dit à une prochaine.
Au revoir, Nini.
C'était La Voix des Pâturages, le podcast du pastoralisme en Limousin.
Une proposition du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin et Radio Vassifière.
Retrouvez tous les podcasts sur notre site internet radiovassifière.com.